Éclat de livre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Éclat de livre, l'émission pour croquer dans la littérature jeunesse sur les ondes de Radio G. Rendez-vous un dimanche sur deux à 17h pour évoquer autour d'un thème des livres pour enfants, petits et grands. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'hiver. Avant de reprendre le chemin de l'école, que diriez-vous d'un voyage au cœur des neiges éternelles? Celles qui ne fondent jamais, tant il fait froid dans leur demeure. Celles qui habillent nos rêves d'un ailleurs magnifique ou par le royaume d'une reine maléfique. Et pour vous réchauffer après une sortie glaciale, je vous propose une poignée de livres autour de cet or blanc. Au programme aujourd'hui, une longue marche dans l'Himalaya à la rencontre d'un peuple surprenant et mythique. Les aventures hilarantes d'un chien dans une station de ski et un conte envoûtant qui convoque le terrifiant grand gel. Mais pour commencer, partons en Antarctique, où les manchots empereurs côtoient des scientifiques venus étudier la banquise.
Moi je sais où c'est, l'Antarctique. C'est tout en bas de la Terre.
En bas, je sais pas. En tout cas, c'est un continent recouvert de glace autour du pôle sud.
L'Antarctique, c'est là que le charmant lapin blanc Simon rend visite à son ami humain Bob après un grand, très grand voyage.
Pour aller en Antarctique, Simon a pris d'abord
un train, puis un bateau,
et enfin
un avion.
Et comme les avions ne peuvent pas atterrir sur la glace, Simon a sauté
avec un parachute,
pile sur une assemblée de manchots empereurs.
Et dans un bar, oui, un bar sur la banquise, Simon attend toute la nuit le retour de Bob.
Au petit matin,
Bob!
Simon! Oh Simon! Désolé pour ce retard, je t'expliquerai tout en route. Mais dépêchons-nous de partir, une tempête est annoncée.
Sur la motoneige, entre le bruit du vent et celui du moteur, Simon n'entendit rien des explications de Bob. Bob stoppa la moto juste avant la base.
Tiens, regarde, je suis certain que tu n'as jamais vu ça.
Bob voulait montrer à Simon les Yukimarimo, des petites boules de givre formées par le vent.
C'est à ce moment que la tempête de neige se leva. On n'y voyait plus rien. Pour ne pas se perdre, il fallut s'accrocher aux rambardes qui entouraient la base. Dans la base, tout le monde était bien au chaud.
Bob rencontra Jeanne, la sismologue, Alain, le géophysicien, Nadia, l'ornithologue, Pierre, le médecin, Luc, le météorologue,
Karim, le chimiste, Alix, la responsable des rayons cosmiques et Florian, l'interprète manchot humain. Bob, lui, était le cuistot.
Simon n'oubliera jamais les bains dans l'eau froide, les ballons sondes, les trous à pêche, les aurores australes
et la tondeuse à neige et les copains de la base.
Cette excursion à hauteur de lapin et d'enfant est relatée avec humour et fraîcheur dans
l'Antarctique de Simon,
un album de Adrien Albert édité par l'École des loisirs.
L'histoire mêle joyeusement éléments documentaires sur le quotidien des scientifiques en Antarctique et événements plus loufoques avec le lapin. Un lapin dont l'expression concentrée et observatrice contraste de façon amusante avec l'atmosphère chaleureuse de la base. Quant aux illustrations, elles constituent la grande force de l'album, à la fois simple et marquante pour les jeunes lecteurs à partir de 3 ans.
Mais comment il fait Simon pour ne pas se perdre dans la neige alors qu'il est tout blanc?
Eh bien, la neige dans cet album n'est jamais blanche. Elle est souvent bleutée sous le ciel clair, parfois grise pendant la tempête, et sombre sous les aurores australes. Après cette virée au pôle sud, on part en musique à l'autre extrémité du globe. Direction Anchorage, en Alaska, avec Michel Schaub.
I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge. Mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all-night rock and rolling. Hey Shell, we was wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're
Quittons à présent les pôles pour nous élever dans les montagnes les plus hautes du globe, dans la chaîne himalayenne. Savez-vous que le nom Himalaya vient du sanskrit, une langue indienne très ancienne, et qu'il signifie la demeure des neiges, on raconte même qu'on peut y croiser l'abominable homme des neiges, le mythique Yeti qui rôderait dans la montagne. Eh bien, c'est sur les pentes d'un de ces sommets que nous partons à présent avec Ashley Anderson, surnommé
« Le roi de la forêt des brumes ».
Un roman de Michael Morpurgo, illustré par François Place et édité par Gallimard Jeunesse.
Ashley a 15 ans et vit en Chine où son père a fondé une mission et un hôpital. Alors que le Japon envahit la Chine, il doit fuir le pays pour gagner l'Inde, encore sous gouvernance anglaise. Oncle Sung, moine bouddhiste tibétain et ami de confiance de son père, l'accompagne dans ce terrible périple dans les neiges de l'Himalaya, où le froid est intense et la nourriture se fait rare.
Oncle Sung me montra du doigt, là-haut, les gros nuages blancs qui roulaient au-dessus des montagnes et s'accrochaient à leur cime.
C'est par là que se trouvent l'Himalaya et la frontière. Nous n'en sommes peut-être plus qu'à 10 jours de marche. C'est le chemin le plus court, le plus pénible, mais aussi le plus sûr. Es-tu prêt à partir ?
Cramponnés l'un à l'autre pour nous soutenir mutuellement, nous nous engageâmes dans la montagne.
Nous passâmes nos nuits blottis dans des ermitages de pierre construits à flanc de montagne, ou quand nous avions de la chance, dans des monastères ou des villages, où oncle Sung achetait toutes les provisions qu'il pouvait.
Chaque nouveau col était plus élevé et plus froid que le précédent. Nos lèvres étaient gercées, les engelures qui couvraient nos doigts et nos orteils devenaient insupportables. La matinée où survint la tempête de neige avait été d'un calme serein. Le vent apporta la tempête, d'on ne sait où. Nous la vîmes fondre sur nous, mais il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Il n'y avait rien d'autre à faire que nous enterrer sous la neige, trouver refuge en elle-même. Nous restâmes tapis des heures durant sous la couverture d'Oncle Sung, tandis que la neige s'entassait au-dessus de nous. Mais quand elle menaça de nous ensevelir, il nous fallut sortir et poursuivre notre route. Rester sur place aurait signifié mourir de froid.
La neige tourbillonnait autour de nous et nous aveuglait instantanément si nous ouvrions les yeux. Je m'accrochai à la ceinture d'oncle Sung et je le suivis. La neige s'était amoncelée en travers de la piste, derrière nous, et il n'y avait donc pas moyen de contourner la montagne par le bas. Il nous fallait aller de l'avant, continuer notre ascension. Nous gardions le silence l'un et l'autre, en marchant d'un pas mal assuré, nous efforçant de surmonter notre souffrance et notre épuisement.
Tout à coup, je trébuchais contre un piqué qui allait devenir une barrière. Je donnai de la voix pour alerter oncle Sung et nous suivîmes la barrière à travers la neige épaisse jusqu'à ce que se profile devant nous, dans l'obscurité, des silhouettes massives et carrées de plusieurs cabanes.
Refuge salvateur pendant la tempête, les cabanes de gardiens de troupeaux de yaks menacent de devenir la tombe des deux voyageurs affamés, qui sont bloqués par la neige et cernés par une meute de loups. Un matin, oncle Sung décide de redescendre vers un village pour apporter de la nourriture. Amaigri et blessé, Ashley est contraint de rester et d'attendre le retour de son compagnon, avec pour seule mission d'alimenter régulièrement leur feu.
Au début de l'après-midi, comme je revenais avec une brassée de brindilles, au cas où le feu viendrait à s'éteindre, en songeant combien oncle Sung allait être content de moi, je vis de nouvelles empreintes, presque parallèles à celles qu'il avait laissées. Il était de retour, déjà de retour. Dans ma précipitation, je trébuchais dans la neige et les brindilles s'éparpillèrent autour de moi. Je me préoccupais même pas de les ramasser. Elles pouvaient bien attendre, il y aura de la nourriture dans la cabane. J'ouvris toute grande la porte.
La créature était assise sur elle-même auprès du feu et, quand elle se leva, elle emplit la pièce de sa masse. On eût dit un géant, mais ce n'était pas tout à fait un homme, car une toison de longs poils roux recouvrait tout son corps.
Qui est donc cette créature poilue qui attend Ashley ? Et surtout, lui veut-elle du mal ? Si je vous disais ce que je pense, je ne manquerais pas de gâcher votre plaisir de le découvrir par vous-même. Michael Morpurgo, l'auteur du roman, s'est très finement créé la surprise et suscité l'émotion dans ce récit initiatique qui oscille entre aventure et merveilleux. Les remarquables aquarelles de François Place participent fortement à l'ambiance de la lecture et illustre à merveille le texte, sans en trahir le fantastique. Une grande, grande réussite à découvrir dès 10 ans pour les bons lecteurs. La neige par Claude Nougaro.
Oh, la neige, regarde la neige qui tombe. Cimetière enchanté, fait de légères tombes, elle tombe la neige silencieusement de toute sa blancheur, d'un noir éblouissant. La neige.
La neige, Chien Pourri et son ami Chaplapla en rêvent depuis la poubelle dans laquelle ils grelottent. Les deux amis aimeraient bien goûter, une fois dans leur vie, aux joies de la glisse. D'autant que leurs camarades Caniche et Bassé ne se privent pas de les narguer, car eux vont passer leur première croquette des neiges. Heureusement, la chance sourit à Chien Pourri et Chaplapla, et les voilà partis, eux aussi, pour Chamonix. Dans le train pour rejoindre la station, ils rencontrent un garçon un peu teigneux, qui trépigne dans sa tenue de ski. Voici Anorak et son père.
Chaplapla, j'ai peur.
De quoi, Chien Pourri ?
De l'abominable homme des neiges.
Ne t'inquiète pas, il n'existe pas, ce sont des histoires pour faire peur aux enfants.
Oui, mais Chien Pourri a gardé son âme de chiot.
Il paraît qu'il mange les enfants et qu'il tond les caniches.
Dors, Chien Pourri, la route est encore longue jusqu'à Chamonix.
À la gare, Chien Pourri et Chaplapla sont accueillis par un étrange couple. La petite bonne femme des neiges et le minable homme des neiges. Oui, tu as bien entendu, le minable homme des neiges, pas l'abominable. La nuance est importante, parce que le minable homme des neiges est moche, mais aussi très gentil. Et les voilà partis tous ensemble pour explorer les cimes.
Ce qu'il y a de chouette à la montagne, c'est que lorsqu'il n'y a pas une bosse pour se casser la jambe, une plaque de verglas pour se casser un bras ou un télésiège pour rester bloqué des heures dans le vide, il y a le hors-piste pour se perdre. C'est ce qui arrive à la colonie des oubliés en suivant le minable homme des neiges. Alors, pour se donner du courage, ils entonnent une chanson bien connue des amoureux de la montagne. Promenons-nous dans la neige pendant que Yeti y est pas. Si Yeti y était, il nous mangerait. Mais comme il y est pas, il nous mangera pas. Lou Yeti ?
Sais-tu pas malheureux de chanter de telles âneries ? Souffle la bonne femme des neiges.
Lou Yeti, que fais-tu ? Reprend en cœur la colonie des oubliés qui n'a pas oublié de chanter faux.
Je mets mes skis !
Répond une voix derrière un sapin.
Lou Yeti, que fais-tu ?
Je mets ma cagoule.
Lou Yeti, que fais-tu ?
Je cherche mes moufles, mais je ne les trouve plus.
Mais où est donc passé le minable homme des neiges ? Demande Chaplapla.
Il s'est enfui, il avait trop peur du Yeti.
C'est alors que, surgissant de nulle part, grognant comme nul autre, apparaît le Yeti en poils et en os.
C'est bizarre, je l'imaginais avec une frange, dit le caniche à frange. Et moi, avec un manteau, dit le basset à petit manteau.
Je veux dire à maman qu'il a de tout petits pieds, dit le labrador.
Je veux prendre un selfie avec le Yeti, dit Anorak.
Pitié, tremble le Yeti. Vous l'aurez compris, rien ne se passe comme prévu quand...
Chien Pourri fait du ski.
Un roman de Cola Gutmann, illustré par Marc Boutavant, est disponible à l'école des loisirs.
Le texte se joue avec malice des poncifs sur les vacances à la neige. Humour, jeu de mots, camaraderie et rebondissements surprises sont au rendez-vous, pour le plus grand bonheur des lecteurs débutants. Francis Cabrel, La Dame de Haute-Savoie.
Quand je serai fatigué de à ces gens qui m'écrasent, quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront en éclats, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les d'un rêve, quand je serai fatigué d'un métier où tu marches, où tu crèves, lorsque demain ne m'apportera que les cris inhumains d'une meute aux abois, j'irai dormir chez la dame dehors.
Au terminus de notre voyage au cœur des neiges éternelles, nous voici dans les contrées du Grand Gel.
Le roi de la montagne en hiver.
Un conte de Sylvie Delhomme, illustré par Aurélia Fronti et édité par Didier Jeunesse.
Une femme vivait seule avec ses deux filles, l'aînée qu'elle choyait et la cadette qu'elle détestait.
Après une violente tempête de neige, un soir de janvier, la grande fit un caprice.
Des violettes ! Il me faut des violettes pour orner ma chambre. Seules ces fleurs sont assorties à mon joli papier peint.
Hé, la souillon !
A crié la mère.
Va dans la montagne et rapporte-nous des violettes.
La petite a protesté. Au plus grand froid de l'hiver, elle ne trouvera rien.
Qu'importe,
dit la mère.
Reviens avec des violettes ou prépare-toi à devenir l'épouse de Grand Gel.
La petite savait bien ce que signifiaient ces noces. Épouser Grand Gel, c'était s'offrir en pâture au froid. C'était épouser la mort elle-même.
La gamine se mit en marche et disparut dans le brouillard laiteux. Après avoir bataillé dans la poudreuse, elle se laissa tomber de lassitude. Effondrée, engourdie, elle ne sentait plus la grande morsure lorsqu'elle vit, pas très loin, s'allumer un feu.
Elle vit assis sur 12 pierres, 12 hommes sans visage, encapuchonnés de pelisse épaisse. 3 de ses manteaux étaient blancs comme neige, 3 verts comme l'herbe, 3 blonds comme les blés, 3 violets comme des grappes de raisin. Les 12 hommes qui regardaient les flammes en silence étaient les 12 mois de l'année.
La gamine demanda d'une voix très douce.
Mais bon monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi de me réchauffer avec votre feu.
Un des hommes, vêtu de blanc, a laissé apparaître sa longue barbe blanche. S'appuyant sur son bâton, il a marmonné.
Pourquoi es-tu venu jusqu'ici ? Que viens-tu chercher chez nous ?
C'était Janvier qui parlait. Alors, elle a raconté les violettes, le caprice de sa sœur et les menaces de sa mère.
Tu sais bien que ce n'est pas la saison,
a dit Janvier en se redressant. Il a tendu son bâton à l'un de ses compagnons, vêtu de vert.
Mon frère Mars, voilà pour toi.
Mars se lève, remue le feu avec son bâton. Soudain, teinté de pluie, son manteau laisse poindre un arbresseau. Une grande flamme perce la nuit noire. La neige disparaît. Comme jaillit des étincelles, des bourgeons éclatent au bout des branches. L'herbe grandit dans les prairies. Les fleurs s'épanouissent et le parfum des violettes annonce le printemps.
Cueille-les vite !
Dit Mars, à présent couvert de feuillage. La gamine ramasse autant de violettes qu'elle peut. Après avoir remercié les 12 mois, elle part en courant, suivant ses traces pour retrouver sa route.
Vous vous en doutez, il en faudra toujours plus pour satisfaire la sœur aînée, qui, après les violettes, réclame à sa cadette, toujours en plein hiver, des fraises, puis des pommes, et puis de l'or. Après tout, pourquoi pas ? Caprices insensés d'une jeune fille insatiable, qui ne sont pas sans évoquer notre propre hérésie, nous qui exploitons sans relâche la nature. Quant à la sœur cadette, que les illustrations envoûtantes d'Aurélia Fronti montrent perdue dans l'immensité de la montagne, c'est justement son humilité qui fera d'elle une reine. Venue de la neige. Il est temps de nous quitter. Aujourd'hui, dans Éclat de livre, nous avons lu, aimé et frissonné avec L'Antarctique de Simon, un album de Adrien Albert, paru à l'École des loisirs. Chien pourri fait du ski, un roman première lecture de Cola Gutmann, illustré par Marc Boutavant, est disponible à l'École des loisirs. Autre roman, Le roi de la forêt des brumes de Michael Morpurgo, illustré par François Place, est disponible en folio junior. Et enfin, Le roi de la montagne en hiver, un album de Sylvie Delhomme, illustré par Aurélia Fronti et édité par Didier Jeunesse. Vous pouvez retrouver ces livres dans toutes les bonnes librairies ou à la bibliothèque. Si vous voulez réécouter l'émission, elle est en ligne sur le site internet de Radio G, www.radio-g.fr. Éclat de livre, une émission préparée et présentée par Margot avec la collaboration de Mao, Ondine et Solène. Merci à elles. La musique que vous entendez en ce moment pour le générique est le morceau Maya du groupe Yappa.
Éclat de livre, c'est fini pour aujourd'hui.
On se retrouve dimanche dans 15 jours à 17h sur Radio G pour un nouveau goûter littéraire.